Merci parce que tu es là et tu veux encore nous faire du bien. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, nos yeux sont fixés sur toi. Merci pour ta grande compassion qui veut encore se manifester au milieu de nous. Tu renouvelles en moi ta compassion divine, en chacun d'entre nous, Seigneur, pour que réellement nous nous sentions proches les uns des autres, que réellement les besoins de l'autre nous concernent personnellement. Oh, quand un membre souffre, les autres souffrent. Quand un membre est dans la joie, les autres sont dans la joie aussi. C'est ce que nous voulons expérimenter cet après-midi. Oh Seigneur, nous sommes dans la paix, dans la détente devant toi, sachant que nous sommes aimés de toi. Oh Alléluia, Alléluia. Et merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu bénis ta parole au milieu de nous, Seigneur. Car sans ta parole, nous sommes perdus, Seigneur. Nous sommes dans les ténèbres. Car notre intelligence est obscurcie à cause du péché. Mais Seigneur, tu ouvres notre esprit, comme tu l'as fait aux premiers disciples, afin qu'ils comprennent les Écritures. Fais-le, Seigneur, pour moi et pour tes enfants, pour chaque personne ici. Ouvre notre esprit pour que nous comprenions les Écritures et qu'un feu nouveau se rallume en nous pour t'aimer davantage et pour glorifier ton nom dans ce monde. Alléluia. Et béni ces moments où nous passerons aussi du temps pour prier pour les malades et ceux qui sont dans la souffrance. Toi qui étais ému de compassion, Seigneur, tu es là. Tu déverses ta compassion dans nos cœurs afin que tout se fasse dans un véritable esprit d'amour pour les opprimés et pour ceux qui ont le cœur brisé. Oh, c'était là ton ministère lorsque tu étais sur la terre. Combien de temps tu passais à prier pour ceux qui étaient opprimés et malades. Oh Jésus, et nous voulons continuer cette œuvre avec ta grâce et ton secours. Et merci pour tout ce que tu vas faire, pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. La présence du Seigneur est là, et à cause de sa présence, quelque chose peut se passer au milieu de nous, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Le titre de mon message sera « Les trois preuves de la résurrection ». Comme nous parlons de la résurrection, la Bible nous parle de preuves en rapport avec la résurrection. Quelles sont ces trois preuves
que Jésus est réellement ressuscité. C'est ce que nous allons voir ensemble cet après-midi. Alléluia. Lisons un premier verset, si vous le voulez bien. Actes des Apôtres, chapitre 1er, et le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Dieu a donné plusieurs preuves à ses disciples pendant ces 40 jours lorsqu'il était encore sur la terre. Mais j'aimerais vous en donner trois tout particulièrement qui vont nous prouver que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Alléluia! Non seulement nous devons être convaincus nous-mêmes que Jésus est ressuscité, mais ces trois preuves sont les preuves que Dieu nous a données pour communiquer aussi à ce monde. Nous devons prouver que Jésus est ressuscité. Amen. Pas seulement leur parler comme cela, mais nous devons leur prouver la résurrection de Jésus. Quelles sont donc ces trois preuves de la résurrection de Jésus? Première preuve, la vérité de la parole de Dieu. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise un verset. Vous allez voir que cela est très important. Dans Matthieu 28, verset 6. Matthieu 28, verset 6. Il y a là une pensée très importante. C'est d'abord l'ange qui dit ceci à Marie de Magdala. Matthieu 28, à partir du verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez qui Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. » Et ensuite, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Soulignez bien cela. Dites-le fort. « Comme il l'avait dit. » Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Autrement dit, il leur avait dit à plusieurs reprises, vous le savez, nous n'allons pas relire tous ces passages, il leur avait dit que le Fils de l'homme allait être crucifié, mais que le troisième jour, il ressusciterait des morts. Il leur avait dit. Et là, l'ange fait le reproche à ces femmes et aussi ensuite aux disciples en leur disant: mais pourquoi est-ce que vous doutez que Jésus est ressuscité? Pourquoi? Il vous l'a dit. Cela est suffisant. Si Dieu l'a dit, si Jésus l'a dit, cela est suffisant. La plus grande preuve de la résurrection de Jésus, c'est l'intégrité de la parole de Dieu. C'est la vérité de cette parole. Alléluia. C'est le moment de dire alléluia. Vous ne dites pas souvent alléluia, je remarque. Si? Amen. Alléluia. Il faudra vous rattraper cet après-midi. Je répète, la plus grande preuve, je répète bien cela, la plus grande preuve de la résurrection de Jésus, c'est la vérité et l'intégrité de la parole de Dieu. Jésus avait dit à ses disciples, le troisième jour, je ressusciterai des morts. C'était la preuve finale, la preuve évidente que c'était vrai. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui encore. La preuve que Christ est ressuscité, c'est que Jésus l'a dit. Et Jésus ne ment pas. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Vous ne le croyez-vous pas? Je vous l'ai dit. Quand Jésus parlait, il ne parlait pas comme un autre homme. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oh, alléluia! Mes chers amis, la preuve que Jésus ressuscité, c'est que Jésus l'avait déjà annoncé. Nous pouvons donc faire confiance en sa parole. Alléluia! même si apparemment il n'y a pas toujours l'évidence immédiate. C'était là le problème avec les disciples. Ils croyaient bien ce que Jésus disait, mais comme la chose ne se manifestait pas tout de suite, ils ont commencé un peu à douter de ce que Jésus dit. Mais mes chers amis, même si une parole de Jésus ne s'accomplit pas tout de suite, cela ne veut pas dire que cette parole n'est pas une parole de vérité. Alléluia. Toutes les promesses annoncées dans cette Bible seront accomplies. Alléluia. Toutes les prophéties annoncées dans ce livre seront accomplies tôt ou tard. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons faire confiance à cette parole. Si tu veux expérimenter la résurrection de Christ dans ta vie, maintenant, si tu veux expérimenter sa puissance de résurrection dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de croire que ce qu'il a dit est la vérité. Alléluia. Crois-le, tout simplement. Il l'a dit. Alléluia. Il l'a dit, sa parole est la vérité, elle s'accomplira. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Gloire à Dieu. Quand il envoya ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous, les miracles étaient là pour prouver que la parole de Dieu est la vérité. Oh, gloire au Seigneur! Et si Dieu fait des miracles au milieu de nous cet après-midi, c'est pour montrer que sa parole est la vérité. C'est pour nous dire que nous pouvons mettre notre confiance en lui. Il est le Dieu vivant et vrai. Alléluia! Il est le seul espoir du monde. Il est le seul qui peut faire quelque chose dans ta vie. Et s'il fait quelque chose dans ta vie, tu ne peux plus te taire. À ton tour, tu dois devenir un ambassadeur de Jésus-Christ. Oh, alléluia! Il confirme sa parole. Non pas ma parole, non pas la parole d'une église. Il y en a beaucoup qui pensent dans les églises que lorsque Dieu fait des miracles au milieu d'eux, ils ont cette fâcheuse conclusion en disant « Oh, vous voyez bien, il y a des miracles même dans notre église, alors Dieu est d'accord avec tout ce que nous faisons. Dieu est d'accord avec tout ce que nous disons, même s'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la Bible dans ce qu'ils disent. Ils disent, mais quand même, alors voyez-vous, Dieu a fait un miracle, alors il est d'accord. Non, mes chers amis, s'il a fait un miracle, ce n'est pas pour prouver ce que vous croyez, c'est pour prouver ce que la Bible dit. Alléluia. Et si nous ne comprenons pas cela, dans peu de temps, il n'y aura plus de miracle. Parce que Dieu ne fait pas des miracles pour confirmer les traditions des hommes, les pensées des hommes, les philosophies humaines. Dieu confirme, fait des miracles pour confirmer sa parole. Alléluia. Car il n'y a que sa parole qui peut sauver l'homme. Il n'y a que sa parole qui peut nous transformer. Ses paroles sont esprit et vie. Oh, alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Un jour, un prédicateur avait des problèmes. Il se disait, Seigneur, c'est pas possible. Je prêche ta parole et je ne vois pas de miracle. Et il n'était pas content. Il ne voyait pas de miracle. Et Dieu lui dit, mon serviteur, prêche ma parole et je confirmerai ma parole. Et tu verras des miracles. Mais ce prédicateur était surpris et presque un peu fâché. Il a dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis? Mais je prêche ta parole. C'est ce que je fais depuis tout le temps, je prêche ta parole. Et tu me dis de prêcher ma parole et je ferai des miracles. Mais je prêche. Non, mon enfant, tu ne prêches pas ma parole. La prochaine fois que tu prêcheras, tu feras attention. À mes yeux, tu sais comment, tu sais ce que tu prêches? Le Seigneur lui a dit, tu prêches 60% de tradition humaine. Ensuite, il lui a dit, tu prêches 30% de pensée personnelle et tu prêches 10% de la parole de Dieu. Alors, c'est pas étonnant que tu aies un dixième de bénédiction dans ton ministère. Tu as des miracles au rabais. Tu as du 10%. Alors, il était fâché. Il a dit, bon, la prochaine fois que je prêche, je vais regarder un peu ce que je prêche. Je vais m'écouter. Et il prêchait l'évangile. Et tout à coup, il était surpris. Alors qu'il annonçait quelque chose, il a réalisé que mais ce qu'il disait n'était pas dans la Bible. Et au moment où il allait dire, chers amis, voilà ce que... Il a dit, ah non, excusez-moi, ce que je vous ai dit maintenant, Ce n'est pas dans la Bible. C'est la tradition. C'est ce qu'on dit généralement. Alors il a été surpris. Allez, excuse-moi, Seigneur. Oui, alors là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, en continuant son message, tout à coup, il annonçait quelque chose. Et il s'est presque repris. Il a dit aux gens, mais excusez-moi, là encore, ce que je vous dis, c'est ce que je pense. C'est pas écrit dans la Bible. Et ainsi, il a pu vérifier que c'était vrai ce que le Seigneur lui avait dit. Il prêchait des traditions humaines. Il prêchait des pensées personnelles. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup de la vraie parole de Dieu. Alors il a dit, Seigneur, bon, maintenant j'ai compris la leçon. À partir de maintenant, je ne veux plus prêcher ni les traditions humaines, ni mes pensées personnelles, mais je veux prêcher ta parole. Et savez-vous ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, lorsqu'il se levait devant l'auditoire pour prêcher la parole de Dieu, Dieu a commencé à faire des miracles. Alléluia! Car Dieu est au milieu de nous, faisant des miracles, non pas pour confirmer ma personne, non pas, s'il vous guérit, pour confirmer aussi votre petite personne, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent que quand Dieu les guérit, oh, c'est un peu des gens exceptionnels, et que même s'ils sont guéris et qu'il y a un péché dans leur vie, ils se disent, oh, c'est formidable, Dieu m'a guéri, c'est que ce péché n'est pas aussi grave que cela. Ah oui, mes chers amis, c'est ça. Nous avons vu des gens guéris et à peine sortis de la salle ou à peine arrivés à la maison, il n'y avait plus de guérison déjà. Et pourtant, ils ont expérimenté une guérison. Ils ont mal interprété le miracle de Dieu dans leur vie. Ils ont mal interprété. Un jour, le Seigneur a fait des reproches à Capernaum. Il leur a dit, mais si les miracles que je faisais au milieu de vous s'étaient faits à Sodome et Gomorre, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Mais vous, j'ai fait des miracles au milieu de vous, mais vous n'avez pas changé. Au contraire, vous êtes devenu orgueilleux. Vous avez pensé qu'on était des gens super, comme on dit aujourd'hui. Vous pensez bien, Dieu a fait un miracle dans ma vie. C'est que tout va bien. Non, mes chers amis, un miracle devrait plutôt nous humilier devant Dieu. Réaliser, Seigneur, mais je ne mérite pas ce miracle. C'est une grâce. Et tu as fait même un miracle alors qu'il y a quelque chose dans ma vie qui te déplaisait. Seigneur, j'ai vu, il y a quelque chose, oh, je t'en demande sincèrement pardon, je m'humilie pour ce que j'ai fait là. Seigneur, je t'en demande pardon. Et ainsi, le miracle, la bonté de Dieu, comme dit la parole de Dieu, nous conduit à la repentance. Amen. Et c'est là la bonne réaction au miracle. Alléluia. Et si nous avons cette bonne attitude-là, Dieu nous donnera encore plus de miracles. Mais si nous interprétons mal le miracle, si nous pensons que Dieu fait des miracles parce qu'il a fait un miracle dans notre vie, qu'il n'y a plus rien à redire, nous sommes presque séduits. Écoutez-moi bien, beaucoup de chrétiens ont perdu leur vie spirituelle, beaucoup même de ministères ont perdu l'onction de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont mal interprété cela. Non, mes chers amis, quand Dieu fait des miracles, ce n'est pas pour confirmer la doctrine ou les traditions d'une église. Jamais. Quand Dieu fait des miracles au milieu de nous, c'est pour confirmer sa parole. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Oh, j'aime ça. Sa parole, il n'y a que sa parole qui restera. Vous passerez, je passerai. Les traditions des hommes disparaîtront. L'enseignement des hommes disparaîtront. La sagesse de l'homme disparaîtra. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu fait des miracles. L'homme aujourd'hui a besoin d'un fondement. Vous avez besoin d'un fondement. J'ai besoin d'un fondement. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas de fondement. Leur fondement, c'est leur église, c'est leur tradition, c'est leur pensée personnelle, c'est leur sentiment. Et lorsque quelque chose ne va plus comme ils le pensent, alors ils perdent leur foi, ils se découragent. Non, mes chers amis, tout ce que Dieu fait dans votre vie, c'est pour vous accrocher encore davantage à sa parole et pour dire, oh Seigneur, mais c'est merveilleux, tu as fait cela, ta parole est merveilleuse. Oh, alléluia. Amen. Et ce monde a besoin d'entendre des hommes et des femmes qui croient en la permanence de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il veut que nous soyons ces hommes et ces femmes qui croient en sa parole et une parole qui ne change pas. Gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Et si vous êtes prêts à être dans cet esprit-là, Seigneur, je ne veux rien pour moi. Mais si tu fais un miracle dans ma vie, ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour que tu changes ma vie. Et aussi, c'est pour que je puisse dire aux autres que tu es le même, que ta parole est la même. et que tu es plein de compassion pour les hommes aujourd'hui encore. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu attend des hommes et des femmes comme cela aujourd'hui. Si vous êtes dans cet esprit-là, si vous voulez absolument que sa parole ait la primauté dans votre vie, alors Dieu fera des miracles dans votre vie. Vous ne pourrez plus les supporter tellement que vous en aurez. Oh, alléluia. Je raconte souvent cette histoire, j'aimerais vous la donner maintenant, concernant justement l'autorité de la parole de Dieu. C'est pour montrer la folie de la sagesse humaine. Un jour, un professeur est venu voir un prédicateur noir. Et ce professeur, je ne sais pas s'il était professeur de théologie, enfin, oui, je crois bien que c'était un théologien. Oui, parce qu'il y a des théologiens, ils prêchent soi-disant la Bible, mais ils ne croient même pas au miracle. Alors on se demande ce qu'ils croient. Alors il est venu vers ce pasteur et il lui dit, mon pasteur, vous croyez, vous, à ce miracle des enfants d'Israël qui ont traversé la mer morte? La mer rouge, pardon. La mer rouge. Alors, le pasteur a dit, mais bien sûr, mais c'est formidable ce qui s'est passé ce jour-là. Bien sûr que j'y crois. J'y crois à ce miracle. Et le professeur a dit, mais ce miracle s'explique. Dieu n'a pas ouvert ses eaux de la mer rouge. À ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. C'était que la marée était un peu haute à ce moment-là. Alors, on pense que lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer rouge, il y avait à peu près 80 cm d'eau. Alors bien sûr, toute cette multitude a passé dans 80 cm d'eau. Et quand le pasteur a entendu ça, il s'est écrié, « Oh, alléluia !» Mais le miracle est encore plus grand que je ne le pensais. Mais le professeur disait, « C'est pas possible, il n'y a pas de miracle !»« Quel miracle ? Pas de miracle !» Oh, mais le pasteur a dit, « Mais formidable !» Mais j'avais même pas pensé à ça. Mais le miracle est encore plus grand. Mais il n'y a pas de miracle. Mais je suis justement en train de te parler pour dire qu'il n'y a pas de miracle. Mais le miracle est plus grand. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y en a pas, justement. Mais si. Alors, le pasteur lui dit, mais si. Mais le miracle est encore plus grand. Mais quel miracle? Eh bien, quand je pense que toute l'armée d'Égypte s'est noyée dans 80 cm d'eau, ça, c'est un plus grand miracle. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Dieu prend les sages à leur propre ruse. N'est-ce pas vrai? Oh, c'est souvent comme ça. On se croit sage, on se croit intelligent, mais finalement, on n'a pas grand-chose. Oh, quand je pense que, alors à ce moment-là, toute une armée dans 80 cm d'eau, c'est un plus grand miracle. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il a été confondu, l'autre. Hein? Je pense qu'il a dû se taire. Il a dû se dire, tiens, ce petit pasteur noir, il ne sait pas grand-chose. Oui, il avait peut-être pas ton éducation, mais il avait la sagesse de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et on a demandé à un autre pasteur une fois s'il croyait au miracle et s'il croyait aussi à cette espèce de poisson de Jonas, la baleine là, que soi-disant, eh bien, le poisson a avalé Jonas. Ce pasteur a dit, écoutez-moi bien, bien sûr je crois à tout cela. C'est écrit. Et vous savez ce qu'il a dit, le pasteur? Je croirais même si la Bible disait que c'était Jonas qui avait avalé le poisson. Il y croirait quand même. Amen. Oh, alléluia. J'y croirais aussi. La preuve de sa résurrection, il l'a dit. Et tout ce qu'il a dit s'accomplira, mes chers amis. Oh, vous pouvez avoir confiance en cette parole de Dieu. Ne doute pas, crois-la de tout ton cœur. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il n'est pas menteur. Amen. Oh, alléluia. Et si tu le crois, tu verras sa puissance de résurrection. Tu verras qu'il est vivant. Tu verras qu'il tiendra près de toi. Même maintenant, alors que tu écoutes, tu peux expérimenter sa présence. Il est là pour te dire, mon enfant, crois à ma parole. Si tu le crois, je suis là, je veux la tester, faire quelque chose dans ta vie. Oh, alléluia. Deuxième preuve maintenant. La deuxième preuve de la résurrection. La deuxième preuve, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Lisons dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 30, voici ce que Pierre dit. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Écoutez bien après. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Autrement dit, ici l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, il donne une autre preuve de la résurrection de Jésus. Les Juifs qui étaient là par milliers, ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Les apôtres eux-mêmes, n'est-ce pas? Les disciples avaient de la peine. Mais maintenant, quelque chose s'est passé. Et pour Pierre, une autre preuve de sa résurrection, c'était quoi? C'était l'effusion du Saint-Esprit. Il leur explique. Comment est-ce que nous avons maintenant expérimenté, nous ici, ces 120 que vous voyez, remplis de l'Esprit de Dieu, parlant langue, glorifiant Dieu? Mais cela a une explication. Et quelle est cette explication? C'est que Dieu a ressuscité des morts son Fils. Il est monté au ciel et il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et maintenant, il le répand sur nous, comme vous le voyez et l'entendez. C'est donc la preuve qu'il est ressuscité des morts. Alléluia! Donc, la preuve que Jésus est ressuscité, c'est qu'il répand son esprit au milieu de nous. Alléluia! C'est pourquoi il leur a dit dans Actes 1, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Mes témoins! Voyez-vous, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est témoin que d'une personne, de Jésus. Amen. On n'est même pas témoin du Saint-Esprit, on est témoin de Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit sans parler de Jésus. On dit même que certains peuvent recevoir le Saint-Esprit sans Jésus. Le Saint-Esprit sans Jésus n'est pas le véritable esprit. Ne l'oublions jamais. C'est Jésus qui répand le Saint-Esprit. Amen. Personne d'autre. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit sans Jésus ou par une autre personne que Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un qui répand le Saint-Esprit. C'est Jésus. Celui qui a souffert sur cette croix. Celui qui a été humilié. Celui qui a payé notre dette sur la croix. Et parce qu'il a payé notre dette, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Et il lui a dit maintenant, je répands mon esprit sur tous ceux qui croient en ma mort. Tous ceux qui croient en l'œuvre de la croix. Maintenant sur vous, je répands mon esprit. Alléluia. Amen. Chers amis, la preuve que Jésus est ressuscité des morts, c'est qu'il répand son esprit. Oh, gloire à Dieu. La preuve que Jésus est ressuscité des morts, c'est qu'il répand son esprit. Oh, gloire à Dieu. Il répand son esprit. Et pourquoi est-ce qu'il répand son esprit? Encore une fois, c'est pour changer nos vies. Le premier message de l'apôtre Pierre était quoi? Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est pour, vient dans notre vie pour changer notre vie. Moi, parfois, je suis étonné. Il y a des gens qui disent avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais ils sont toujours les mêmes. Ils mentent encore. Ils sont impurs encore. Ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Cela n'est pas possible. Quand le Saint-Esprit vient, la première chose que nous voulons faire, c'est ce que Pierre a dit. Oh, je me repens. Je me repens. Quand le Saint-Esprit vient, la lumière se fait dans notre vie. Et on voit qu'on n'est pas aussi bon que cela. On se repent. Et on dit, oh Seigneur, c'est une grâce encore que tu me baptises dans le Saint-Esprit. Je ne le mérite pas. Maintenant, je me repens. Oh, j'abandonne tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et je veux vivre entièrement pour toi. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Comment savoir que Jésus est ressuscité quand ses propres disciples sont ressuscités eux-mêmes et ont vécu une vie nouvelle? Amen. Alléluia. Voilà comment les gens croiront que Jésus est ressuscité quand nous, nous avons passé par une vie nouvelle. Et Pierre est passé par cela. Lui-même, il a dit, vous en souvenez, à cette foule qui était là, il leur a dit, vous avez renié le saint et le juste. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous avez renié le saint et le juste. Mais comment? Pierre, tu oses dire ça? Mais il y a quelques jours, c'est toi qui as renié Jésus. Et tu oses dire aux autres, vous l'avez renié? Tu devrais te taire, Pierre. Il ne faut pas être hypocrite comme cela. Et tu dis maintenant aux autres que vous avez renié? C'est toi qui l'as renié le premier d'abord. Mais pourquoi Pierre, rempli du Saint-Esprit, peut-il dire cela? Il y a une vérité. Il y a quelque chose de grand. Nous savons que Pierre a pleuré amèrement, n'est-ce pas vrai? Pleuré amèrement. Et quand il a dit aux autres, repentez-vous, il était premièrement lui-même passé par cette profonde repentance. Il pleura amèrement. Oh, il est bon encore aujourd'hui de pleurer sur son péché. Amen. Oh, il n'y a pas assez de larmes aujourd'hui. Il n'y a pas assez de larmes, de vraies larmes de repentance, pas des larmes de crocodile. Ah, il y en a qui versent des larmes, mais ils se relèvent et sont toujours les mêmes. Mais des vraies larmes de repentance. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je t'ai renié. Pierre est passé par là. Il s'est repenti profondément. Il est allé dans un coin et il était là, brisé par la douleur. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? C'est pas possible. J'ai renié celui qui m'aimait, celui qui m'a tant aimé. C'est pas possible. Et il pleurait amèrement, amèrement. Mais il s'est repenti et Dieu lui a pardonné. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a vu. Le Seigneur l'a rencontré. Et là, dans cet entretien, il lui a dit, « Pierre, Simon, fils de Jonas, paie mes agneaux, paie mes brebis. Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Dans cet entretien mémorable, Pierre a été réconcilié. Il a su que son père l'avait pardonné. Alléluia. Et maintenant, devant cette multitude, c'était comme un homme pardonné qu'il se tenait. Amen. Comme un homme justifié. Et c'est pourquoi il pouvait se tenir devant les autres en disant, vous avez renié le Saint juste. Pourquoi? Parce que lui, il était pardonné. Il était justifié. Dieu ne considérait plus son péché. Il n'existait plus. Son reniement n'existait plus aux yeux de Dieu. Alléluia. Personne ne pouvait le condamner parce que Dieu ne le condamnait plus. C'est pourquoi il était libre. Il était libre. Il était libre. Alléluia. Amen. Voulez-vous être libre? Comment être libre? En venant dans la repentance sincèrement et en disant, Seigneur, je ne veux plus recommencer. J'abandonne ce qui te déplaît. Et Dieu te dira, mon enfant, relève-toi maintenant. Va, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Va et ne pêche pas. Et vous pouvez vous relever comme un homme qui n'a jamais péché. Alléluia. C'est pourquoi Pierre pouvait faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Pierre était sans crainte devant la multitude. C'était un nouvel homme. Amen. C'était pas le vieux Pierre. C'était pas l'ancien Pierre qui se tenait devant la foule. C'était un nouveau Pierre. Alléluia. Un homme pardonné. Un homme purifié. Un homme lavé. Un homme consacré. Un homme rempli du Saint-Esprit. Le passé était tellement passé et dépassé qu'il ne pensait même plus à son péché. Alléluia! Parce que Dieu l'avait pardonné. Dieu lui avait dit, tu es pardonné, tu es justifié, je ne vois plus ton péché maintenant. C'est fini, tu es un nouvel homme. Et cela a libéré Pierre. Amen! Cela l'a libéré. C'est pourquoi il pouvait se tenir devant la multitude. Et vous avez renié le saint et le juste. Parce qu'il était un nouvel homme. Oh, alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Oui, mes chers amis, écoutez-moi bien. Dieu veut vous utiliser. Là où vous avez été le plus faible dans votre vie, Dieu peut vous rendre le plus fort. Ne dites pas, oh, mais dans quel domaine? C'est pas possible. J'ai été souillé, j'ai été esclave, j'ai été impur. Jamais, jamais je ne pourrai aider les autres dans ce domaine-là. Non! C'est justement dans ce domaine-là que Dieu veut t'aider pour bénir les autres. Amen! Oh, alléluia! Ce qui fait ta honte actuellement, ou ce qui a été ta honte actuellement, peut être un sujet de gloire dans l'avenir. Alléluia! Peut-être un sujet de gloire, parce que à cause de cela, Dieu a purifié ton cœur. À cause de cela, Dieu t'a lavé profondément. Tu connais le problème. Et maintenant, Dieu t'a purifié, t'a rendu vainqueur. Et tu peux aider les autres maintenant. Tu peux les aider parce que tu iras auprès d'eux sans les condamner, mais avec un message de libération. Amen. Alléluia. Moi, je crois que lorsque Pierre a dit, vous avez renié le saint et le juste, il n'était pas avec les dents fermées. Vous avez renié le saint et le juste. Non, non, non. Moi, je crois qu'il avait les larmes aux yeux. Amen. Quand Pierre disait, repentez-vous, ce n'était pas avec les foudres du Sinaï, c'était avec l'amour du calvaire. Repentez-vous. Je suis sûr que les larmes coulaient de ses yeux. Et il leur disait, vous avez renié, comme pour dire, dans le fond de son cœur aussi, moi aussi, je suis passé par là. Vous me connaissez d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Je ne vous condamne pas, mais vous l'avez fait. Je l'ai fait aussi. Mais si Dieu m'a pardonné, je suis un exemple devant vous. Je suis un homme ressuscité. Alléluia. Et c'est ce qui a convaincu les gens. La transformation de Pierre était une preuve que Jésus était ressuscité. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nos discours sur la résurrection de Jésus n'ont aucune valeur si nos vies ne sont pas transformées, mes chers amis. Ce que le monde a besoin, c'est de voir, ce sont des hommes et des femmes transformés. Alléluia. Alléluia. Non, pas des anges. Il y en a qui se prennent pour des anges. Je ne parle pas d'anges. Alors, il y en a qui se prennent pour des anges. Oh, allez voir, on a l'impression que... Ils sont tellement parfaits qu'on ne peut même pas vivre avec eux. Avez-vous remarqué des gens comme cela? Ils sont tellement parfaits qu'on ne peut même pas les approcher. Ah, c'est les gens, je suis plus saint que vous.
Ah oui.
Vous le voyez dans leur regard et dans leurs paroles.
Qu'est-ce qu'il y a?
Et à leur regard, vous avez l'impression... Ah, ça, c'est quelqu'un qui vient du ciel directement. Ah bon? Non, mes chers amis, ça c'est du mysticisme. Ça c'est de l'illuminisme. Non, mes chers amis, quand Dieu nous transforme, il ne fait pas de nous des anges, c'est là où on sera des anges. Ce n'est pas le moment de faire l'ange maintenant. Il faut être soi-même. Amen. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Pour que les gens vous reconnaissent aussi. Si vous prenez pour un ange, ils vont se demander si vous avez existé. Non. Dans le fond de notre cœur, Dieu a fait une œuvre profonde. Il nous a fait passer par le chemin étroit. Et c'est pourquoi aussi nous pouvons aider les autres. Amen. Sans les condamner. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour libérer. Alléluia. Condamner les autres, c'est très facile. Mais les libérer, c'est une autre histoire. Amen. Ah, il y en a beaucoup qui sont spécialistes pour condamner les gens, pour dire tout ce qui ne va pas chez les autres, mais incapables d'amener la délivrance. Ah, pour condamner, il ne faut pas être rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais pour délivrer quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour l'amener à un véritable épanouissement. Là, il faut être rempli du Saint-Esprit. Oh, alléluia! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! L'effusion du Saint-Esprit vient dans notre vie et transforme notre vie, notre caractère. Ne dites pas, oh, moi, j'ai exactement le caractère de mon père ou de mon grand-père ou de ma grand-mère. Combien se justifient ainsi? Ah, eh bien, ma grand-mère était comme ça. Mon arrière-grand-père était comme ça. Et voilà, on en reste là. Non, mes chers amis, Si Christ est en vous maintenant, vous avez un nouveau père. Amen. Si vous avez un nouveau père, il n'y a pas d'arrière-grand-père. Vous avez un nouveau père. Une nouvelle vie a commencé. Une nouvelle race a commencé. Alléluia. Une nouvelle nation a commencé. Un nouveau peuple a commencé. Alléluia. Oh, alléluia. Une race royale. Nous sommes des rois. Gloire à Dieu. On n'est pas des anges, mais on est des rois. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Et je vais terminer maintenant. La troisième preuve de la résurrection, c'est la guérison des malades. Pierre a dû utiliser aussi cet argument-là pour prouver à cet auditoire qui était là que Jésus était ressuscité. La preuve, alors, la preuve c'est quoi? C'est qu'il guérit les malades. Actes chapitre 3, verset 15, il leur dit, « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » C'est comme si Pierre disait, la preuve que Jésus est ressuscité, eh bien, c'est la résurrection de cet homme. La résurrection de cet homme. Il avait été malade depuis plus de... Non, il était âgé de plus de 40 ans. Et il était malade depuis combien de temps? Un homme boiteux de naissance. Depuis sa naissance, il était boiteux. Donc, la guérison des malades, voyez-vous, est importante. C'est la preuve que Jésus est vivant au milieu de nous. Amen. Et si Jésus fait des miracles cet après-midi, et s'il en fait ailleurs, et s'il en fait partout où des hommes et des femmes prêchent sa parole, c'est pour prouver que Jésus est vivant. Et s'il est vivant, il est le seul qui peut sauver aujourd'hui encore. Amen. C'est pour que les hommes invoquent son nom. Et ce jour-là, et après, il y a eu des multitudes qui ont été sauvées seulement par la guérison d'un homme, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia! Et aujourd'hui encore, sa puissance de guérison agit au milieu de nous. Dieu confirme sa parole. Alléluia! Pour prouver qu'il est vivant. J'aimerais donner cette dernière pensée. Pourquoi est-ce que Jésus guérit? Comment est-ce que Jésus guérit? Un des premiers sentiments de Jésus lorsqu'il guérissait, c'était ça. Compassion. Il était plein de compassion. Et j'aimerais que, et je crois que le Seigneur voudrait qu'on réalise cela cet après-midi. C'est sa grande compassion pour chacun d'entre nous. Car il était ému de compassion et guérissait les malades. La guérison des malades est liée avec la compassion de Jésus. Autrement dit, lorsque vous réalisez combien Jésus vous aime, combien il vous aime, alors vous pouvez croire en lui beaucoup plus facilement et sa puissance peut se manifester dans votre vie. Amen. Un jour, une chrétienne était en train de louer le Seigneur dans une chorale. Elle avait une grosseur ici au poignet. Elle avait déjà été opérée plusieurs fois, mais chaque fois cette grosseur revenait. Et alors qu'elle était en train de louer le Seigneur, tout à coup, elle eut une conviction intérieure que Jésus l'aimait à un tel point qu'il voulait la guérir. Et elle a été comme saisie de l'amour de Dieu. Et alors qu'elle était là, elle a eu cette révélation, « Mais Seigneur, tu m'aimes tant, et parce que le Seigneur l'aimait tant qu'il voulait la guérir. » Elle s'est écrit, « Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, vous voyez, il n'y a pas de lamentation, il n'y avait pas de tiraillement, de tension, mais une révélation de l'amour de Dieu pour elle. Et au moment où elle a cru cela, elle a regardé où se trouvait sa grosseur, et la grosseur était en train de disparaître. Si bien qu'elle a dit à sa camarade qui était à côté, à la chrétienne qui était à côté, « Regarde, 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 la grosseur est en train de s'en aller. » Et l'autre regardait, ça y est, vous s'est perdu. Et Dieu lui a montré, comment est-ce que ce miracle s'est passé? c'est lorsque tu étais devant moi et que tu as été conscient à un moment donné que je t'aimais. Tant que je t'aimais à un tel point que je voulais te guérir. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un aussi a fait cette conclusion pendant des temps de réveil. Pourquoi est-ce que il y a des guérisons qui se manifestent beaucoup plus facilement que pendant d'autres périodes? Et on a constaté une chose, c'est que pendant des périodes de réveil, vous l'avez remarqué, lorsque le Saint-Esprit agit, il y a toujours un merveilleux esprit d'amour au milieu du peuple de Dieu. Amen. Oh, il y a un amour extraordinaire dans le peuple de Dieu. On s'aime, pourquoi? Parce qu'on réalise combien il nous aime. Vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres si vous ne réalisez pas premièrement combien Dieu vous aime, vous. Amen. C'est là le problème. Bien des fois, nous n'arrivons pas à nous aimer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation de la grandeur, de l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. C'est là le nœud du problème. On ne peut pas aimer l'autre parce que, finalement, nous, on ne se sent pas aimé. Alors, si moi, je ne me sens pas aimé, la conclusion logique, c'est quoi? C'est que je ne peux pas aimer l'autre. C'est pas vrai? Moi, je vous dis, j'assure franchement, c'est ce que je ressens. Quand je sens que je suis profondément aimé, quand l'amour de Dieu est là, en moi, oh, je sais que le Seigneur m'aime tel que je suis. Oh, je ne suis pas formidable, mais il m'aime tel que je suis. Alors, je suis libre. Je suis libre devant lui. Et je sens cet amour pénétrer en moi et je peux aimer n'importe qui, même le plus grand ennemi. Mais lorsque je ne suis plus conscient de cet amour, de l'immensité de l'amour de Dieu pour moi, alors j'ai beau aimer l'autre, je n'y arrive pas. Et voilà pourquoi il y a des tensions, des combats. On n'arrive pas à accepter l'autre parce qu'on n'a pas réalisé que Dieu nous a acceptés nous-mêmes, premièrement. Amen. Oh, mes chers amis, mais lorsqu'on réalise que Dieu nous aime, laissez-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. La preuve que Dieu vous aime, c'est qu'il est mort pour vous sur la croix. Alléluia. Il vous aime. Et la conclusion logique est celle-ci. Si tu m'aimes, alors je vais le confesser. Seigneur, tu m'aimes. Et il vous aime tel que vous êtes. Amen. Il vous aime tel que vous êtes, mais il ne vous laisse pas tel que vous êtes. Amen. Ça, c'est différent. Vous venez tel que vous êtes, mais après, attention, dans son amour, il ne va pas vous laisser tel que vous êtes. Parce qu'il y a des choses dans votre vie qui ne le glorifient pas et qui vous rendent malheureux. Mais il vous aime tel que vous êtes. Il dit, viens mon enfant, je t'aime, viens. Tel que tu es, viens. Je t'aime tel que tu es. Ne cherche pas à changer quelque chose, je t'aime. Viens, viens, viens. Et alors après, dans son amour, il transformera tout ce qui doit être transformé. Car le ministère du Saint-Esprit est de nous transformer à l'image de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Oui, veux-tu être guéri? L'accent doit premièrement être mis, non pas sur la foi, mais sur l'amour de Dieu. Amen. Ceci est important. La foi doit être agissante par la charité. C'est quand nous savons que Dieu nous aime, que nous pouvons croire en lui. Et facilement, et librement. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si notre foi n'est pas en rapport avec l'amour de Dieu pour nous, qu'est-ce qui va se faire? Notre foi, c'est un peu de l'autosuggestion. Je crois, je crois, je crois, je crois. Mais combien de gens disent, mais je crois, je crois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je crois? La foi, c'est pas une auto, un raisonnement intellectuel. La foi n'est pas oui, des formules magiques. La foi, c'est une relation avec quelqu'un qui nous aime. Amen. Quand la Bible parle de la foi, c'est toujours en relation avec la personne de Jésus. Amen. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. La foi est toujours lié avec une personne. C'est pas dire je crois, combien de gens? Ah mais vous savez, je crois. Mais ces gens-là n'ont pas de relation, n'ont pas de communion avec Jésus, et une communion d'amour. Et là où il n'y a pas de communion d'amour avec Jésus, alors votre foi est une foi intellectuelle, une foi verbale, qui n'est pas la foi biblique qui transporte des montagnes. Amen. Donc le point important, quand on recherche la guérison, on ne doit pas premièrement rechercher la guérison. On doit rechercher Jésus, qui est la source de la guérison. Amen. Quand on cherche le salut, on ne cherche pas le salut en lui-même. On cherche Jésus, qui est la source du salut. Amen. Tu veux une bénédiction? C'est Jésus qu'il faut le rechercher. Ne viens pas chercher la guérison. Ne viens pas chercher le salut. Viens chercher Jésus. Recherche une communion avec lui. Donne-toi à lui. Reçois son pardon et une relation d'amour avec lui. Réalise combien il t'aime. Pensez à cette dame. Lorsqu'elle a été convaincue que Dieu l'aimait, c'était facile de croire. C'était facile. C'était facile. Quand on est convaincu que Dieu nous aime tant, alors il veut nous guérir. Amen. Combien de fois nous pensons, oh, je ne sais pas s'il veut. Non, ce ne sont des mauvaises questions. Il n'est pas question de savoir si Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Mais toi, tu dois avoir une relation d'amour avec lui. Alléluia. Et lorsque tu es dans cette relation d'amour, tu ne marchandes plus rien. Tu es dans un esprit de louange et d'adoration. Et tu lui dis, merci Seigneur, tu m'aimes à un tel point que tu veux me bénir, me sauver, me guérir. Et même s'il ne le fait pas tout de suite, tous les miracles ne sont pas instantanés. Mais l'amour de Dieu demeure. Et si vous restez ferme dans cette révélation de l'amour de Dieu pour vous, votre foi va s'épanouir. Votre foi va transporter des montagnes. Mais ce ne sera pas votre foi en vous-même. Ce n'est pas votre foi dans la foi. C'est votre foi dans l'amour de Jésus pour vous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, c'est par la foi en son nom, voyez-vous, que Dieu a fait ce miracle. La foi est liée avec le nom de Jésus et un Jésus qui nous aime, plein de compassion. Amen. Alors c'est pourquoi maintenant, nous allons passer du temps à prier pour tous ceux qui le désirent. Alléluia, plein de compassion. Alléluia. Avec nos frères qui sont là aussi, nous allons prier avec vous. Et croire que Dieu veut agir. Alléluia. Et quand Dieu fait des miracles, alors nous pouvons dire que Jésus est ressuscité. Amen. Alors le peuple peut dire, mais Jésus est vivant. C'est vrai. Il n'y a que cela. Oh, nous en avons besoin. Les miracles, ce n'est pas un luxe. Les miracles, ce n'est pas un passe-temps. Les miracles, ce n'est pas un spectacle. Les miracles sont une nécessité au milieu de nous pour que des gens soient sauvés. Et dans sa compassion, il veut aussi nous faire du bien. Alléluia. Que son nom soit béni. Et que l'Église retrouve comme tout à nouveau cette manifestation de la résurrection de Jésus en donnant ces trois preuves. Que chaque chrétien commence personnellement à donner les preuves de la résurrection. Et l'Église tout entière le faisant pourra ainsi accomplir la mission que Dieu lui demande. Alléluia. Dieu est réellement ressuscité. Alléluia. Allons par tout le monde et prêchons sa merveilleuse nouvelle. Et le Seigneur confirmera sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Loue-le là où tu es. Et sa puissance de résurrection peut venir te toucher maintenant. Alléluia. Loue-le dans ton cœur maintenant. Et que dans le nom de Jésus, que tu reçoives sa guérison, son salut. Sois sauvé, amen. Sois guéri, amen. Lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Sois délivré de ton infirmité, sois pardonné de ton péché. Amen. Va et ne pêche plus et vis comme un nouvel homme pour glorifier Jésus. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh, à toi la louange et l'adoration de nos cœurs. Alléluia. Notre attente est en toi. Et merci pour la compassion que tu as pour nous. Tu nous aimes et tu aimes chacun ici et tu bénis chacun. Oh Seigneur, merci. Et que toute la gloire t'en revienne au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Amen. Jésus est là. Oh, chantons-le. Gloire au Seigneur.
Je croyais être délaissé dans ce monde si troublé. Longtemps Jésus m'a parlé. J'ai compris qu'il voulait me guider. Il m'a parlé, Jésus m'a parlé. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a pardonné et changé ma vie. Depuis ce jour, il me conduit et son sang me purifie. Je veux l'adorer pour toujours, parler de son grand amour. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. La joie est dans mon cœur, car Jésus est en moi. Il m'a délivré et mon libérateur. Il vient de tout puissant, il porte bien en moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, car Jésus est en moi. Il est ma délivrance et mon libérateur.
La joie est dans mon cœur.